Aujourd'hui, je vais vous lire quelque chose que Sri Aurobindo a lui-même écrit. Voici la complète définition du yoga intégral. La manifestation dans l'expérience personnelle de la vérité que la nature universelle a cachée au-dedans d'elle-même et à la découverte de laquelle elle travaille. C'est la conversion de l'âme humaine en âme divine et de la vie naturelle en divine existence. Le yoga vise non seulement de nous faire passer de la conscience terrestre ignorante habituelle dans la conscience divine, mais encore à faire descendre le pouvoir supramental de cette divine conscience ici-bas dans l'ignorance de l'intellectuel, de la vie et du corps, à les transformer, à manifester le divin sur terre et à créer une vie divine dans la matière. Une découverte de la divinité en soi-même est le premier objet du yoga intégral de Sri Aurobindo, mais aussi une découverte totale de la divinité dans le monde, derrière le démenti apparent offert par son arrangement des formes et finalement la découverte totale du dynamisme d'un éternel transcendant. Et il faut réaliser cette descente de la vérité divine sur la terre, non seulement dans le mental et le vital, mais aussi dans le corps et la matière. De même, l'homme, la conversion de notre pensée, de notre sentiment, sans une conversion correspondante de l'esprit et du corps, de nos œuvres, serait un accomplissement tronqué. Toute la vie doit être acceptée, mais elle doit tout entière être transformée. C'est de cette nouvelle naissance que nous faisons le but, une croissance aboutissant à une conscience divine, une conversion intégrale à la divinité non seulement de l'âme, mais de toutes les parties de notre nature, et tout le sens de notre yoga. Sri Aurobindo fait de fréquentes allusions au type du surhomme que nous avons pour mission de développer par notre yoga et il estime pour cela le moment venu. Une des particularités essentielles de ce surhomme est qu'il sera conscient de la divinité en toute chose et sera un avec Dieu et un avec tout. Votre mental, votre cœur, votre corps ne seront plus à vous, mais à Dieu. Vous-même ne serez plus qu'un centre d'être, de connaissance et de béatitude par lequel œuvre le divin. Dans sa vision, il a donné une importance particulière à la vie et à la création. Le nœud du problème de l'immortalité reste ce troisième type d'immortalité que Sri Aurobindo a vu et qui a été nommé une immortalité physique. La conquête de l'inconscience et de l'ignorance matérielle jusque dans les fondations du règne de la matière. Les éléments composant la structure matérielle du corps ont une gradation de densité et chacune a une propriété illimitée qui peut être libérée par la conscience yogique. Si ces propriétés essentiellement yogiques surgissent, le corps physique est alors saturé du feu yogique et ne connaît plus ni la maladie, ni la vieillesse, ni la mort. Mais la conquête de la mort est un problème cosmique qui implique un renversement absolu du plan de l'évolution de la vie telle que nous la connaissons. Sri Aurobindo l'a vu et il s'est lancé dans la téméraire aventure d'affronter les forces cosmiques elles-mêmes. À ceux qui ont voulu le ridiculiser ou l'accuser d'hérésie à travailler contre le plan divin, il a clairement répondu « Non ». C'est ouvrir le chemin pour l'inévitable accomplissement de son dessein. Sri Aurobindo est indubitablement le premier sacrifice d'une noble cause. Sa mort n'a pas jeté de point d'arrêt. Elle fait plutôt penser aux paroles du Rishi du Purushasuktam. Comme les dieux étendaient la toile du sacrifice, ils attachèrent le Purusha lui-même au poteau de la victime. Si la mort, ainsi que le disent les voyants des Upanishads, est une concentration d'une illumination derrière le cœur. La mort de Sri Aurobindo a été comme une explosion, illuminant tout l'horizon dans un avenir lointain. Et le choc pour les vivants a été et sera de grande envergure dans ses résultats. L'expression intellectuelle de la connaissance intérieure directe et de toute autre prise de conscience intuitive de l'individu était la chose qui l'encourageait. Et si par un contact avec sa propre philosophie lumineuse, nous pouvons arriver à une lueur mentale des intentions du supramental de Sri Aurobindo. Nous ferons ce que lui-même, d'un au-delà caché à nos sens grossiers, ne refusera peut-être pas d'approuver. Le point central de la philosophie de Sri Aurobindo et de son yoga est la conscience dynamique de la vérité qu'il a appelée le supramental. Il a écrit ceci : Je ne fais rien pour moi, car je n'ai personnellement besoin de rien, ni de libération, moksha, ni de supramentalisation. Si je cherche la supramentalisation, c'est par qu'elle doit être accomplie pour la conscience terrestre. Et si elle n'est pas faite en moi, elle ne peut pas l'être en d'autres. Seul un combattant intrépide comme Sri Aurobindo, seul un génie de l'esprit comme lui pouvait percevoir intuitivement le grandiose secret de l'esprit dans l'évolution, pouvait préparer l'assaut transformateur de la nature établi. Je conquère ou péris, écrit Sri Aurobindo. Rien sauf un immense sacrifice stratégique de cette sorte, permettant d'accélérer et de prendre absolument certaine la transformation physique de la mer. Et par cette transformation, d'assurer l'enracinement et l'épanouissement d'une vie divine sur la terre pour l'humanité. Cet holocauste impliquerait aussi une action rédemptrice mondiale par le doux pouvoir dont parle Sri Aurobindo. Ce n'est que l'amour du divin qui peut porter le fardeau qui m'est destiné et que tous doivent porter, ceux qui ont tout sacrifié dans le seul but de soulever hors des ténèbres la terre vers le divin. N'a-t-il pas exposé dans une lettre la technique du triomphe, dans ce qui peut sembler une chute, même si je prévois un résultat adverse, je dois travailler pour celui que je considère devoir être, car cela garde en vie la force, le principe de vérité que je sers et lui laisse la possibilité de triompher ensuite, ce qui fait que cela devient partie de l'accomplissement du destin futur favorable, même si le destin de l'heure présente semble contraire. Ces mots donnent l'espérance que Sri Aurobindo avait déjà divinisé l'enveloppe physique subtile, pourra employer le mode supramental de manifestation pour présider dans le domaine même de la matière à la nouvelle humanité que la mère initiera. Dans cette aurore dorée d'un âge divin, la mère sera le premier être à atteindre progressivement un corps divin dans un corps né d'une façon humaine. Tandis qu'aidé par l'accomplissement de la mère, Sri Aurobindo sera le premier à endosser le vêtement physique de la transformation par une projection de substance et de forme émanant de la surnature. Voilà ma recherche concernant Sri Aurobindo. Je dépose cette lecture très profondément au pied de Sri Aurobindo. Mais je continue et je veux vous lire une continuité. Alors, c'est les entretiens de 1953. C'est le 25 septembre 1953. Et la question d'un des disciples près de mère, « Tu dis que ce monde physique était la projection des mondes invisibles ». Et pourtant, les émanations divines, et pourquoi les émanations divines doivent-elles venir dans le monde physique pour le transformer? Elles n'ont qu'à faire l'œuvre dans les plans invisibles, alors la projection sera bonne. Mère répond : Ça, c'est une question sérieuse. Tu connais l'image que l'on donne de l'univers, un serpent qui se mord la queue. Et on prend cela comme le symbole de l'infini de l'univers. Eh bien, c'est un fait. Dans la création, il y a une matérialisation progressive et de plus en plus grande. Mais nous pourrions prendre une autre image. Je prends une image approximative. L'univers est un cercle, ou plutôt une sphère. Mais pour la facilité de l'explication, mettons un cercle. Il y a une descente progressive du plus subtil jusqu'au plus matériel. Mais le plus matériel se trouve touché au point d'origine du plus subtil. Alors tu comprends l'image. Au lieu de faire le tour pour changer la matière, il est beaucoup plus facile de le faire directement puisque les deux extrémités se touchent, l'extrême subtilité et l'extrême matérialité se touchent parce que c'est une sphère. Donc, au lieu de faire tout ça, en fait, psychologiquement, c'est cela. Le reste s'en suivra tout naturellement. Si ça se fait, tout le reste s'arrangera de soi. Et ce n'est même pas comme cela. C'est justement pour la facilité du travail que tout a été concentré et concrétisé en un point. De sorte qu'au lieu d'avoir à se répandre dans l'infini pour changer les choses, on puisse travailler juste sur un point qui serve de symbole à tout l'univers. Au point de vue occulte, la Terre qui, au point de vue astronomique, n'est rien du tout. Dans l'immensité des cieux astronomiques, la Terre n'est qu'une chose absolument sans intérêt, sans importance. mais haut point de vue occulte et spirituel. La Terre est le symbole concentré de l'univers, parce qu'il est beaucoup plus facile de travailler sur un point que de travailler dans une immensité diluée. Ça, tous les gens qui travaillent le savent. Eh bien, pour la facilité et la nécessité du travail, tout l'univers a été concentré et condensé symboliquement dans un grain de sable qui s'est appelé la Terre. Mais c'est pour cela aussi que ce point-là apparaît particulièrement mauvais, parce que tout est concentré. Et cela peut être particulièrement bon aussi, parce que toujours il y a les deux. Les deux opposés sont ensemble. Et c'est toujours le meilleur qui voisine avec le pire, ou le pire qui voisine avec le meilleur. Cela dépend de quel côté on regarde. Mais c'est à cause du pire qu'on peut trouver le meilleur. Et c'est à cause du meilleur que l'on peut transformer le pire. Les deux agissent et réagissent l'un sur l'autre. Nous avons publié le double mauvais. On dit toujours qu'il y a un double sombre de toutes les étoiles et un double lumineux de toutes les planètes. Occultement, on dit qu'il y a une Terre lumineuse, tout cela c'est l'expérience de la Terre lumineuse. Sri Aurobindo a décrit l'expérience. Le double mauvais. Ce que vous dites au sujet du double mauvais m'intéresse au plus haut point, car cela vient confirmer mon expérience réitérée qu'un individu exceptionnellement doué pour notre œuvre a toujours, ou presque toujours, un être qui lui est attaché et apparaît parfois comme une partie de lui-même et qui est l'exacte contradiction de l'essence même de ce qu'il représente dans l'œuvre à accomplir. Ou si cet être n'est pas là au début, s'il ne s'est pas attaché à la personnalité, une force de ce genre pénètre dans l'atmosphère de cette personne dès qu'elle se met en route vers la réalisation. Ce double semble avoir pour objet de susciter des faux pas et de mauvaises conditions, en un mot, de placer devant elle tout le problème de l'œuvre qu'elle a entreprise. C'est, semble-t-il, comme si le problème ne pouvait, dans l'économie occulte des choses, se résoudre autrement qu'au moyen d'un instrument prédestiné qui s'approprie de la difficulté. Cela expliquerait bien des choses qui pourraient paraître très déconcertantes à la surface. Lettre sur le yoga, volume 6, page 289. 90. L'expérience dont parle Mère a eu lieu le 26 novembre 1915 et a été décrite dans Prière et méditation. La réponse de Sri Aurobindo à la Mère date du 31 décembre 1915. Sri Aurobindo parle de la Mère, édition Sri Aurobindo Ashram, Pondichéry, 1992. C'est une expérience que j'ai eue et que j'ai écrite à Sri Aurobindo. Et il m'a répondu que c'était une expérience des temps védiques, une expérience qui s'était passée dans le double lumineux de la Terre. Mère. Entretien de Mère, 1953. Je dépose cette lecture au pied de Douce Mère. Merci Sri Aurobindo, merci Douce Mère, Ganga Lakshmi. Alors, je voudrais peut-être aussi me permettre de vous communiquer qu'aujourd'hui, nous sommes l'anniversaire de Sri Kiridjoshi. C'était le 10 août. Merci aussi à Kiri d'être toujours avec nous. Merci. Ganga Lakshmi.
C'est bon? Спасибо вам, что вы пришли. Вот сегодня у нас такая программа. Это называется «Духовный эмбиент». Надеюсь, вам понравилось.